C'est l'histoire.
L'histoire.
Avec un grand I.
Quelle histoire ?
Chaque semaine, la fine équipe de l'histoire avec un grand I étudie avec vous un nouvel événement historique.
Quand on parle histoire avec quelqu'un, il y a, allez, disons une chance sur trois que la discussion aborde l'Antiquité et l'Empire romain. Période relativement bien étudiée en France avec l'aide, il faut le noter, de bon nombre d'œuvres culturelles. Qui dit Empire romain dit Empereur romain. On connaît les plus célèbres, Auguste, Caligula, Néron et d'autres. On connaît moins l'empereur Commode, ayant régné 12 ans, de 180 à 192 après J.C. Ce dernier porte plutôt mal son nom, il faut le dire, traînant avec lui une légende noire et la réputation d'être un empereur cruel et sanguinaire. Pour étudier avec nous l'histoire de Commode et valider si la légende dit vrai, la belle équipe d'historiens de l'histoire avec un gros et bonjour Thierry Lafleur.
Bonjour.
Bonjour Alexandre Robelin.
Bien le bonjour.
Bonjour Bastien Arnaud.
Bonjour.
L'histoire avec un grand I sur Prune.
Alors, on sait que Commode est le fils de Marc Aurèle, dernier des cinq bons empereurs, comme on les appelle. Que connaît-on des débuts de Commode ?
Bah, les débuts de Commode, déjà, on peut commencer à partir de l'enfance de Commode, c'est-à-dire l'enfance de Commode, lorsque son papa, donc Marc Aurèle, est empereur, et comme vous l'avez dit, un des derniers bons empereurs. C'est une grosse pression. Déjà, c'est une grosse pression. Commode sait qu'il va un jour devoir prendre la place de son père, devenir empereur. Et déjà, on sent dès son plus jeune âge, voilà, une certaine fébrilité due à cette pression qui pèse sur ses épaules. En effet, ça fait cinq bons empereurs. Et six bons empereurs, ce serait lui du coup, ce serait lui le sixième.
Oui. Donc une fébrilité, on va dire, de stress, c'est ça. On sent la pression déjà sur ses épaules dès son plus jeune âge.
Cette pression lui est mise par tout le monde. Je veux dire, dans l'atrium, quand son illustre papa venait faire un discours et qu'on le voyait lui, les autres tribuns, c'était « Ouh là là, ça va être compliqué de faire mieux que son père ou de faire aussi bien ».
Puis les gens étaient durs avec lui, le peuple romain était dur avec lui, c'est-à-dire que lorsque Marc Aurèle s'adressait au peuple, en effet, dans l'atrium, on se souvient tous de ce moment où, en effet, Marc Aurèle pose une question, oui. Il demande au peuple comment est l'eau, voilà, il veut savoir comment est l'eau, comment est la qualité de l'eau, et en fait, tout le monde se tourne vers Commode, personne ne répond, et tout le monde se tourne vers Commode, et on entendra même quelqu'un dire « c'est Commode qui doit répondre !» Et en fait, grosse pression déjà sur ses épaules, à l'époque, il n'a que 8 ans, et en fait, voilà, tout le monde attendait qu'il fasse ses preuves parce que justement, en fait, le peuple avait peur aussi. Le peuple avait peur que justement cette chaîne de bons empereurs se brise. Et en fait, tout le monde justement attendait de voir qui était ce Commode, qui était cet enfant qui était appelé à régner.
Tout à fait. Je me rappelle d'un tableau qui est au musée du Louvre, encore exposé aujourd'hui. Et on voit Commode à côté de son père, Marc Aurèle. Et justement, c'est à peu près les débuts, en fait, où des représentations de Commode.
Ouais, c'est le tableau Le Bon et Le Mauvais.
Exactement, oui. Ouais, celui-ci, ouais, on le voit bien l'atrium complet avec tous ces Romains. Et Commode caché sous sa toge. Les tout premiers dessins de Commode, on ne voyait même pas son visage, en fait. On ne sait pas à quoi il ressemblait petit. Ouais. Il se cachait beaucoup dans la toge, la sienne ou celle de son père.
Et ce tableau est peint notamment donc, pendant ce que vous disiez Thierry,
cette problématique de l'eau. Ouais.
Cette question de l'eau, auquel d'ailleurs on peut fermer là-dessus, Commode a répondu, son papa lui a demandé comment est l'eau, et Commode a répondu, elle est bonne.
Elle est bonne.
Alors que pas du tout.
Et c'est à ce moment-là, en fait, le moment où il va se cacher sous sa toge, c'est le moment où en fait, il va répondre oui, elle est bonne, ignorant tout de la qualité de l'eau en ce moment. D'ailleurs, la question de Marc Aurèle n'était pas innocente. Et au moment où il répond « oui, elle est bonne », tout le peuple se met à le pointer du doigt et à le huer. Et à ce moment-là, Commode se cache sous sa toge.
C'était un genre de test, finalement, du peuple envers son futur empereur.
Oui, parce que en fait, tout le peuple romain savait que l'eau n'était pas bonne. Il y avait des gros problèmes de canalisation à l'époque, beaucoup de tartre.
Quand on dit « pas bonne », c'est-à-dire, elle avait quel goût précisément ?
Elle était tiède.
Elle était tiède, oui.
C'est vrai que c'est désagréable de boire de l'eau tiède,
Elle était tiède, ni chaude ni froide, on ne pouvait ni s'y baigner ni la boire.
Oui.
Donc voilà, très désagréable. Et remplie de tartre, enfin, on se souvient, l'aqueduc qui porte toujours ce nom aujourd'hui, l'aqueduc du Tartre, qui était la principale cause justement de l'entartrement de l'eau à cette époque.
Les Romains savaient faire beaucoup de choses. L'aqueduc en est la preuve. Mais par contre, détartrer ce fameux aqueduc, c'est venu bien plus tard.
Comment faisaient les Romains sans eau, du coup, s'ils ne pouvaient ni la boire, ni se baigner dedans ?
Alors, du coup, justement, à ce moment-là, on était dans une période de crise, justement, dans l'Empire romain, où il fallait aller chercher de l'eau à même l'océan, à même la mer Méditerranée, pardon. Il fallait la dessaler, voilà, on a mis au point des technologies. Enfin, c'était fastidieux. C'était très fastidieux. Il fallait monter en haut des montagnes pour aller la chercher à l'endroit où elle était le plus pure, à la source même. Donc voilà, il y avait un réel ras-le-bol du peuple romain. Marc Aurèle, par contre, était là pour gérer la situation. Mmh. Très bien.
Il a très bien géré la situation, d'ailleurs, à cette époque-là. Il était vraiment incroyable sur le domaine. Il a même fait des études. Mmh. Quand il a appris vraiment que les... Parce que lui, il avait pas vraiment de problème autour de lui.
En tant qu'empereur, on a accès à de l'eau... Certes, très potable.
Mais exactement. Mais du coup, il s'est vraiment mis plus proche de son peuple. Et du coup, il a fait des études d'ingénierie, comme on pourrait appeler aujourd'hui, quoi, sur l'eau.
C'est là qu'il a inventé les barrages, d'ailleurs.
Oui.
En s'inspirant des castors, tout simplement. Et bah, voilà, Marc Aurèle, un génie de son temps et le dernier des bons empereurs. Mais voilà, revenons-en à Commode. Donc à ce moment-là, oui. On suspecte que c'est ce moment-là, justement, où Commode va vriller, tout simplement. Où Commode va devenir un autre Commode. Et c'est vraiment ce moment-là.
Vous voulez dire pas commode ?
Pas très commode, en effet.
Mmh. Oui, bah oui, l'expression vient de là. Il fallait dire...
Je me demandais si on allait faire la boutade.
Bien sûr.
Je savais que ce serait plus vous, Alexandre.
Écoutez, vous tiquez de l'œil à chaque fois qu'on
déjà,
le dit.
Déjà, Guillaume avait un peu donné voilà, en préambule. Alors, oui, donc, pardon, je reprends mes esprits, parce que voilà, revenons un peu au sérieux de cette émission.
Bien sûr.
Commode devient donc pas très commode, j'allais la refaire.
Mais oui,
elle est vraiment excellente cette expression.
Une fois qu'on l'a en tête, on peut plus sur l'enlever.
On l'a sur le bout de la langue, j'ai envie de dire.
C'est terrible.
Allez.
On en était où ?
Bon.
Alors,
Commode. On peut l'appeler différemment sinon.
On peut l'appeler
Coco.
Alors, Coco. Oui, on va l'appeler Coco.
On va l'appeler Coco.
Donc, Coco vrille. Coco vrille totalement, à ce moment-là, on le suspecte, et c'est à ce moment-là, finalement, qu'il va vouer cette haine au peuple romain, finalement, sur lequel il doit régner plus tard, hein. Mais c'est à ce moment-là où, en fait, cette humiliation qui lui restera toute sa vie.
Donc ça, c'est une humiliation qui a lieu à ses 8 ans, et qui va colorer complètement tout son parcours et les années adolescentes, on va dire. Donc là, on a beaucoup parlé de Commode et de comment est-ce qu'il vit cette pression. Quel est le regard de son père sur son futur empereur, finalement, et le fait qu'il réponde à côté de la plaque à des questions comme la question de l'eau.
Vous savez, Marc Aurèle, il n'a pas le temps d'avoir des enfants. Il en a parce qu'il faut une descendance, il faut assurer un héritier, mais il n'a pas le temps. Donc parfois, il oublie même qu'il a un fils. Et c'est d'ailleurs tragique pour Coco, et qui est en énorme manque d'amour, en plus de manque de considération et de manque de...
Parce que sa mère est morte lorsqu'il était très jeune,
oui.
Malheureusement, et donc il n'a que cette figure paternelle, finalement, en guise de parent. Mmh.
Est-ce qu'on a des événements marquants d'oubli, on va dire, où Coco se retrouve abandonné
Un des gros événements, c'est quand Marc Aurèle oublie d'aller le chercher à l'école.
Horrible.
Terrible. Certains historiens, d'ailleurs, moi je vous ai dit que c'était à ce moment-là que Coco vrille, mais certains disent que Coco vrille, à ce moment-là, donc il arrive bien plus jeune lors de ses 6 ans, lorsque Marc Aurèle l'oublie à l'école.
Oui.
Très bien. Donc une enfance difficile finalement face à cette figure tutélaire qui prend beaucoup, beaucoup de place et qui met beaucoup de pression. Comment ça se passe à l'école, justement, avec ses camarades de classe et les professeurs ?
Eh bien, à l'école, tout le monde sait qui il est. C'est le problème. D'ailleurs, c'est de là est parti son surnom Coco. C'est que tous ses amis, j'ose dire le mot ami, mais c'est pas vraiment ses amis, c'est ses camarades de classe, ont peur de lui.
Des futurs sujets, en fait.
Ah oui, ils ont peur de lui. Ils n'osent pas lui parler, ils n'osent pas le jouer avec lui par...
Très distant.
Par peur.
Mais il est en permanence accompagné de deux gardes aussi, deux gardes en habit de légion, justement, qui l'accompagnent sur tous ses déplacements. Donc, en effet, c'est assez impressionnant dans une salle de classe d'avoir ça.
Oui, c'est pas très pratique pour s'asseoir, on suppose, sur les petits bureaux des salles de classe.
Toujours assis à côté de lui sur les bureaux.
Très bien. Donc une enfance compliquée pour Commode qui vit la pression. On étudie les années suivantes juste après la pause musicale.
tire le derrière dans la neige, histoire de se rafraîchir, pour éviter les frais, tout en suivant la mode. Chez moi, je prends le frais, le cul sur la commode.
Pour éviter les frais, tout en suivant la mode. Chez moi, je prends le frais, le cul sur la commode.
Le cul sur la commode. Laisseuse qui s'enquiquine le soir après le dîner, se paye une mezzanine et s'en vont au ciné. Toute la soirée, il reste assise à digérer des navets indigestes en salle réfrigérée. Pour éviter les frais, tout en suivant la mode, chez moi je prends le frais, le cul sur la commode.
Pour éviter les frais, tout en suivant la mode, chez moi je prends le frais, le cul sur la commode.
Le cul sur la commode. Pour tenter la fortune, des gens ivres d'orgueil s'en vont risquer leur thune chaque dimanche à Auteuil. Dans des cars ils s'entassent, écrasés à demi, puis ayant bu la tasse, radine sans un radis. Pour éviter les frais, tout en suivant la mode, chez moi je prends le frais, le cul sur la commode.
Pour éviter les frais, tout en suivant la mode, chez moi je prends le frais, le cul sur la commode.
Le cul sur la commode. Couplet patriotique. Ma commode est française, c'est du moderne ancien. Les tiroirs sont Louis XVI, les pieds républicains. Elle fit les barricades, elle ne tient plus très bien. Mais bien qu'elle soit malade, elle m'est sacrée, j'y tiens. Et si un jour on vient me la prendre comme c'est la mode, je défendrai mon bien, le cul sur la commode.
Et si un jour on vient me la prendre comme c'est la mode, je défendrai mon bien, le cul sur la commode.
Le cul sur la commode.
Et nous voilà dans l'histoire avec un grand I après Jeanne Aubert et le morceau sur la commode. On s'est quitté en évoquant l'enfance de l'empereur Commode, fils de Marc Aurèle. Faisons un petit saut dans le temps et allons voir le prochain événement, on va dire, important dans la vie de Commode qui est.
Bah, le prochain événement, c'est finalement toute son adolescence, en fait, parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'était important de marquer cette date de ses 8 ans et de cet incident de l'atrium sur l'eau. Puisque à partir de ses 9 ans, enfin les années qui vont suivre, et jusqu'à son accession au pouvoir, Commode va avoir un comportement totalement différent, c'est-à-dire qu'il va devenir exemplaire. Il va se mettre au sport, il va se mettre finalement à bien travailler à l'école, il va devenir le premier de sa classe, il va devenir vraiment exemplaire, quelqu'un de charmant, voilà, quelqu'un que tout le monde adore, il va devenir voilà, le futur bon empereur que tout le monde attend finalement, et tout le monde est ravi. Et durant toute son adolescence, c'est ça. C'est le premier de la classe, il va être premier de l'équipe
de volleyball.
Il va être le premier serveur, et voilà, ça va être vraiment le modèle finalement, le fils modèle, et même Marc Aurèle va finir par le reconcevoir. Finalement, il va se dire ah mais oui, c'est mon fils, il va en être fier, et tout le monde va être fier finalement de cet empereur en devenir.
Et qu'est-ce qui explique ce retournement de situation, de personnalité ?
Allez. Alors, oui, c'est que ce n'est pas anodin, c'est... Mmh. Comment dire ?
Quand on voit ce qui a suivi.
Quand on voit ce qui a suivi, on comprend ce qu'il avait en tête, mais effectivement, à cette époque-là, tout le monde pense que tout est naturel. Mmh. Mais c'était une façade.
C'était une façade ?
Une façade, oui, parce qu'à cette époque-là, il commence à avoir des cours de stratégie militaire. Donc c'est un cours très, très théorique. Avec quelques cas pratiques sur le terrain lorsqu'il accompagne son père auprès des légions.
Il lit notamment L'art de la guerre.
L'art de la guerre.
Oui.
Oui, bien sûr. Oui, mais oui, il lit l'art de la guerre et en fait, il apprend des stratégies, des tactiques en fait militaires et il les met au point. Il les met au point pour lui. Donc, c'est-à-dire, il essaie de les mettre en pratique dans sa vie courante. Et du coup, il commence à mentir et à se créer en fait un personnage.
Comme un espion, un agent double.
Exactement, comme un agent double.
Donc là, ce que vous êtes en train de dire, si je comprends bien, c'est que le petit Commode a un plan, grosso modo, dès ses 9-10 ans, et que ce plan implique cette façade qui se construit pendant toute son adolescence d'être l'élève exemplaire, le futur empereur parfait. Mais derrière, il y a une idée en douce qui sera révélée que plus tard.
Bah, elle sera révélée, en fait, ça va mettre du temps quand même à ce que les gens se rendent compte, parce que la désillusion est grande, en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il va accéder au pouvoir, donc le jour de ses 18 ans, en assassinant son père, mais ça on ne le saura que bien. Le peuple romain ne le sait pas, parce qu'il assassine son père, mais tout le monde pense à un accident. Donc il va assassiner son père, et ensuite, au fur et à mesure, justement, il va dévoiler son vrai visage, finalement. Il va dévoiler l'assassinat, etc. Enfin, on va y venir, mais voilà.
Alors, revenons peut-être sur l'assassinat, c'est pas anodin quand même. On sait qu'entre empereurs, c'est presque monnaie courante, mais néanmoins, on a quand même là Commode qui assassine son père. Ça commence... Enfin, les gens le voient comme un accident. Est-ce qu'on peut détailler ce qui s'est passé ?
Le petit Commode a... Je vais reprendre Coco.
Coco.
Surtout sur cet événement-là qui implique une Commode, en plus le meuble.
Coco. Plus, ça va être compliqué, oui.
En plus, vu qu'il est petit, on dit petit Commode, et il y a un truc qui... Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui.
Oui, non, d'accord.
Tout à fait. Bon.
Donc, Coco, effectivement, va piéger la Commode de son père. C'est une petite Commode, en fait, où Marc Aurèle range sa couronne et ses effets d'empereur. Il va fabriquer une bombe artisanale. Une bombe artisanale qui va l'enlever de la liste des suspects pendant très longtemps, parce que ça ne ressemble pas à... Ça ressemble à un coup de voyou, ça ressemble à un coup de...
Et pourtant, tous les messages sont là, c'est-à-dire que dès le départ, cette bombe, elle est fabriquée à base de tartre, essentiellement. Et en fait, tous les messages, il le met dans la Commode, elle est fabriquée à base de tartre, donc on sent tout le ressentiment, finalement, qu'il y a eu pendant toutes ces années, et qui finalement, explose au grand jour, littéralement, ce jour-là, le jour de l'assassinat de Marc Aurèle.
Oui. Donc cette Commode explose, tue Marc Aurèle au passage, donc quelque part un acte terroriste du fils envers son père.
Oui, c'est ça.
On pensait à une armée étrangère,
une légion étrangère.
La patte d'un assassin venu d'un autre pays pour déstabiliser l'Empire.
Vous disiez, parce que en fait, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'en effet, on a des écrits qui sont restés, des témoignages, et notamment dans le journal de Cucus, qui était un général de Marc Aurèle, et Cucus qui était présent le jour de la scène du crime. Donc la Commode explose, Marc Aurèle est projeté par la fenêtre, il arrive au pied de Cucus, qui était là en train de monter la garde devant la maison, et Marc Aurèle respire encore à ce moment-là. Et en fait, accourt à ce moment-là Commode, pour justement secourir son père, et au moment où Commode se retire, là Marc Aurèle ne respire plus. Donc en fait, il serait venu, selon les dires de Cucus, même achever le travail, une fois que Marc Aurèle a été éjecté par la fenêtre suite au piège de cette Commode.
Ok, donc vraiment, là, clairement, un acte prémédité et fait avec du sang-froid.
Et il va au bout.
Il va jusqu'au bout. À ce moment-là, Coco repart clairement en vrille.
Il a 14 ans.
Il a
14 ans.
Il a 18
ans. Il a 18 ans. Il a 18 ans.
J'étais persuadé qu'il avait 14 ans.
Non, les écrits sont formels. Il a 18 ans.
C'est parce qu'il est encore petit, il est encore jeune. Donc sur les peintures, on a l'impression, mais.
C'est pas possible.
C'est vrai que dans les écrits, on l'appelle le petit Commode, mais il avait déjà 18 ans.
Déjà 18 ans.
Écoutez, c'est des informations. J'ai dû lire ça quelque part, et puis c'est rentré dans ma tête. Et voilà, on se fait des idées.
On en apprend tous les jours, même quand on fait partie.
Bien sûr,
c'est bien.
On fait des erreurs. On est
bien sûr, bien sûr.
Et du coup, le petit Coco à 18 ans repart en vrille, et là c'est le masque qui tombe. Là, il se révèle au grand jour et il annonce la couleur de son prochain, du coup, empire.
Et puis, il met en place son grand plan.
Le grand plan.
Alors, est-ce que ça apparaît dès son couronnement ? Est-ce que le peuple remarque le changement de personnalité ou la face réelle, on va dire, du personnage, ou est-ce qu'il faut attendre quelques années ?
On le saura bien plus tard.
Bien plus tard. Mais comme je vous le disais, ça va être petit à petit, en fait, des petits éléments qui, mis bout à bout, on se rend compte que voilà, c'était fait exprès et c'était une mauvaise personne. Déjà, il va prendre comme capitaine de la garde, donc il va démettre Cucus de ses fonctions. Et comme capitaine de la garde, il va prendre Guidania. Guidania, qui était une guerrière qui faisait de la patrouille en fait dans les rues de Rome et qui était considérée comme la plus méchante, la plus mauvaise. Voilà, pour un oui, pour un non, elle se retrouvait à poignarder des voleurs pour un simple vol de pommes. Et voilà, elle était considérée comme cruelle et elle est nommée, dès l'arrivée au pouvoir, capitaine de la garde. Mmh. Et en fait, mis bout à bout, quand on met tous ces éléments-là, on se rend compte que oui, c'était voulu.
Mmh. Tout à fait, ça a été très crescendo au final. Même dans l'Atrium, il l'appelle le sixième au tout départ. C'était le sixième empereur, il était encore bon. Et vraiment, ils étaient tous là, on a réussi quoi. On a réussi à indiquer le sixième empereur qui sera encore bon. Alors que lui, à côté, c'était pas ça, quoi.
Parce que cet événement de prendre cette guerrière en garde du corps,
Guidania,
c'est légitime à cette époque. Marc Aurèle vient de se faire assassiner. Il faut serrer la vis.
Il faut remettre de l'ordre. Il y a des terroristes dans la ville, quand même.
Et oui.
C'est ce que pensent les gens.
Il a créé un climat de terreur qui lui permet de mettre en place des mesures qui n'auraient pas été acceptées dans un autre contexte.
Et toujours en ajoutant un peu de poudre aux yeux, justement, parce que c'était très mignon, en fait. Guidania, qui était massif, qui était immense, elle portait souvent Commode sur ses épaules, Coco. Lui était assez petit. Et en fait... Le peuple trouvait ça attendrissant, voilà, parce qu'en effet, il y avait un complexe, voilà, de taille. Mais voilà, enfin, finalement, elle parcourait les rues avec Commode sur ses épaules, à tuer et à trucider les voleurs, entre guillemets, je mets des grandes guillemets, parce qu'en effet, était-ce vraiment des voleurs? Était-ce là des actes juste réfléchis et des frappes chirurgicales, finalement? Et on est là, finalement, voilà, avec Guidania qui se promène avec Coco sur les épaules et qui fait le ménage dans les rues de Rome.
Alexandre Roblin, vous parliez d'un grand plan, oui. Ou d'un plan qu'il avait en tête.
Bien, allons-y.
Voilà, c'est quoi le contenu de ce plan?
Le contenu de ce plan, c'est justement Guidania qui va le mettre à exécution. On en revient à cette histoire de d'eau qui ne l'aura jamais quitté. Il ne l'aura jamais quitté hein, pendant toute sa, enfin jusqu'au du moment de l'événement de l'Atrium jusqu'à sa prise de pouvoir et même jusqu'à sa mort. Il a envie de se venger. C'est ça son grand plan. Il veut se venger de tous ces Romains qui lui ont ri au nez.
C'est tout le monde.
De tout le monde.
Tout le monde.
Et donc il fomente un coup et il empoisonne les eaux de la ville de Rome pour tenter d'empoisonner tout son peuple.
Ah oui, donc un sacré plan, il veut empoisonner toute la ville de Rome. Est-ce que le plan fonctionne? Que dit l'histoire?
Alors, Guidania va verser un gros sac de poison.
De tartre.
De tartre, oui, oui, c'est du tartre concentré.
Oui. Oui. Très, très concentré.
Très, très concentré. Dans l'aqueduc de Rome.
L'aqueduc de Rome, le grand aqueduc. Le grand aqueduc. Celui à l'entrée, oui, l'entrée voilà. De la ville.
Qui alimente toute la ville, globalement. Toute la ville. Et puis les canalisations. Donc l'eau commence à être néfaste pour la santé. Pendant quelques mois, ça va mettre du temps. Pendant quelques mois, en fait, c'est pas un poison mortel tout de suite.
Non, le tartre, c'est un empoisonnement sur la durée.
Oui. Faut le savoir, effectivement. Donc c'est pas un empoisonnement tout de suite, et justement c'est pour masquer son crime que cet empoisonnement au tartre a été choisi, parce que le peuple romain s'affaiblit de jour en jour, pendant des mois en mois, et on croit à une peste, on croit à une maladie qui vient d'ailleurs, pas un empoisonnement par les eaux.
Alors, pendant plusieurs mois, on ne sait pas pourquoi le peuple romain vit de cette façon-là, affaibli. Est-ce qu'on met en place certaines mesures, des recherches? Est-ce que les médecins investiguent quoi que ce soit? Quelles sont les pistes?
Tout est bloqué par Coco, en fait.
Tout est bloqué.
C'est-à-dire Coco, il sait ce qui est en train de se passer. Et en fait, voilà, c'est lui qui est à la tête du pays. Donc, rien n'est mis en place pour améliorer l'état de santé des Romains et des Romaines. Donc à ce moment-là, non, voilà, les gens meurent à petit feu, sans le savoir.
Et le peuple ne se plaint pas?
Si, bien sûr. Mais il leur donne des fausses recommandations.
Il blâme les ennemis de Rome, les barbares qui seraient en train de justement... en train d'empoisonner, pas d'empoisonner, mais en train de dégrader le mode de vie des Romains par la qualité de l'eau et par la qualité de d'approvisionnement, parce que les Romains ne reçoivent de moins en moins de vivres aussi également dans la capitale. Donc oui, il va blâmer les barbares finalement.
Tout à fait. En fait, suite à la mort de son père, en fait, tous les boucs émissaires sont bons. Il peut vraiment mettre la faute sur n'importe qui et ça fonctionne. Le peuple croit pendant un moment. Pendant bien 2 ans, le peuple continue de le croire.
Donc 2 ans, on va dire, d'empoisonnement au Tartre. Mmh. Comment est-ce que le peuple découvre qui empoisonne et avec quoi ?
Bien, on en a parlé tout à l'heure, c'est Cucus. Cucus, donc anciennement capitaine de la garde, qui un jour, alors qu'il se promenait, qu'il regardait les étoiles, il était d'ailleurs lui un peu astronome à 16 heures, il se retrouve finalement à surprendre Guidania en train de tartrer.
Oui.
Elle est en train de tartrer, il la surprend. Ils vont avoir un grand combat épique. Derrière, il y a des très beaux tableaux de ce combat, le combat
très,
de,
très beau.
De Cucus et Guidania sur l'aqueduc. Et voilà, donc à ce moment-là, finalement, Cucus se rend compte de ce qui est en train de se passer. Et c'est à ce moment-là que la rébellion se met en marche.
Il n'a jamais eu confiance en Guidania.
Non, jamais. Cucus, non, bien sûr.
Et beaucoup de rancœur envers ce fils qui l'a démis de ses fonctions.
Alors, la rébellion qui commence, sous quelle forme, qui va prendre la tête de cette rébellion? Est-ce qu'il va y avoir assez de partisans pour changer les choses?
C'est là que c'est compliqué. En fait, Cucus prend légitimement la tête de cette rébellion. Naturellement, c'est lui qui avait des doutes depuis le départ. Hein. Sauf qu'il ne pouvait pas les exprimer au public. Il ne pouvait pas aller sur la place publique et crier haut et fort « je mets un parti contre Coco ». Ça ne se faisait pas à l'époque. Du coup, il a fait ça dans les catacombes de Rome. Il a monté des petits groupes vraiment secrets. Où il pouvait communiquer des informations et rassembler des gens qui pensaient comme lui. Donc au début, ils étaient 3, parce que, comme on l'a dit précédemment, tout le monde pensait que Coco, c'était le 6e, quoi.
Oui.
Du coup, ils ont commencé petits, mais au fur et à mesure, l'incident de l'eau a pris de l'ampleur, et en fait, ce groupe de rebelles a vraiment commencé à exister.
Et c'est de ça que je parlais tout à l'heure quand je parlais de frappe chirurgicale. Finalement, Guidania et Coco, lorsqu'ils partaient dans les rues de Rome, ils savaient très bien qui assassinait. C'est pour ça que j'avais mis des grosses guillemets autour de voleurs. C'est-à-dire que c'était déjà ces membres de la rébellion qu'ils avaient repérés et qu'ils allaient assassiner comme ça dans les rues. Donc en fait, c'était une rébellion silencieuse, mais une répression de la rébellion tout aussi silencieuse finalement.
Mmh. Donc tout se passait, on va dire, de manière opaque pour le grand public.
C'est
ça. Est-ce qu'il y a eu quand même des actions faites pour empêcher tout ce qui était tartrage?
Il y avait toute une équipe qui était en charge justement de supprimer les provisions de Tartre, qui étaient amenées au Rome, parce qu'une fois que Guidania n'allait plus tartrer l'eau, finalement, c'était d'autres gardes qui allaient.
Elle était en incapacité après son combat avec Cucus.
Elle était totalement handicapée par ce combat et elle ne pouvait plus aller tartrer l'eau. Donc, c'était des gardes beaucoup moins, finalement, puissants et fortes qu'elle qui allaient tartrer l'eau. Et du coup, ils étaient faciles à contrer.
Toutes les nuits. Donc, toutes les nuits, c'était... on appelait ça les nuits du Tartre. Toutes les nuits, c'était un affrontement entre les rebelles et les tartreurs de l'empereur.
Et c'était cruel et sanguinaire, puisqu'en effet, on parle d'embuscade, on parle de justement de coups bas, etc. Voilà, l'empereur Commode vraiment ne tarissait pas de mauvais coups contre la rébellion, jusqu'au jour, finalement, du grand déversement.
Alors justement, on arrive à la fin de l'émission et à la fin de cette histoire. Le jour du grand déversement, qu'est-ce qui se passe et en quoi est-ce que ça signe la fin de l'empereur?
C'est la victoire de la rébellion, finalement.
La victoire des rebelles.
Exactement, qui vont fomenter justement le plan qui va tuer Commode et tout son gouvernement. Donc, les membres du gouvernement de Commode étaient au courant du tartrage, etc. Il avait rassemblé autour de lui les gens les plus mauvais de l'Empire. Et ils se retrouvent comme ça dans l'atrium pour justement faire leur point hebdomadaire. Et Commode commence tous ses points par la même question. Comment est l'eau?
Et ses sympathisants répondent
« Elle est bonne,
elle est bonne. »
Et là, il rigole, tours à gorge déployée. Et ce jour-là, alors que Commode demande « Comment est l'eau ?», plus rien ne se fait entendre à la salle, car le sol commence à trembler, et les murs tremblent, etc. Ouais. Jusqu'à ce qu'à l'intérieur de l'atrium
se déverse
une quantité incroyable d'eau, puisque les rebelles avaient fait exploser le barrage de Marc Aurèle.
On est le 27 mars 192 après Jésus-Christ. Et c'est la date vraiment du grand déversement sur Rome, qui commence par l'atrium pour la symbolique politique. et continue après dans les rues de tout Rome.
Les rues qui avaient été évacuées par les rebelles, voilà, et qui reprennent le contrôle de la ville ensuite.
Et c'était un plan très malin, puisque l'Atrium, effectivement, ils ont fait exploser l'aqueduc à l'endroit où, au-dessus de l'Atrium, quoi.
Le barrage.
Le barrage, pardon, oui, tout à fait, qui se trouvait juste à côté, pourquoi on n'y avait pas pensé plus tôt.
Et finalement, la symbolique est forte, puisque c'est via le dernier mort d'empereur, via Marc Aurèle, finalement, via son invention de Marc Aurèle, que vient le salut du peuple de Rome. Malheureusement, comme on le sait, il n'y aura plus de bons empereurs par la suite, mais ça, voilà, on reparlera de l'histoire de Cucus une autre fois.
On en reparlera, en effet, ce sera le mot de la fin. Merci à vous, nos invités, merci à vous qui nous avez écoutés. C'était l'Histoire avec un grand I. Vous retrouvez l'émission en podcast sur prune.net, toutes les plateformes d'écoute et sur Instagram, compte l'Histoire avec un grand I. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau fait historique.
C'était l'Histoire avec un grand I. Chaque semaine, retrouvez la fine équipe de l'Histoire avec un grand I afin de revisiter en improvisation totale un fait historique qui n'a jamais eu lieu.